This is the Humans Link Audio Experience. The greatest.
Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin French de humanslink.com et je vous souhaite la bienvenue sur une nouvelle pause café. J'espère que vous allez super bien ce matin. Comme vous le savez, nous sommes convaincus que l'adaptabilité et la résilience sont les plus grandes forces de l'humanité. On se retrouve tous les jours de la semaine à 11h pour renforcer le lien humain, favoriser l'entraide, mais aussi la solidarité. Si vous nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas à laisser un petit like. Sur YouTube, c'est pareil. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube avec la petite clochette pour les notifications. En cette période de confinement, on poste des nouvelles vidéos tous les jours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et aujourd'hui, je reçois un être humain exceptionnel. Je suis très, très heureux de pouvoir le recevoir. Il est médecin spécialiste en santé communautaire et il a également une maîtrise en médecine du travail. Merci d'accueillir Serge Marquis. Bonjour Serge.
Hey, Valentin, merci. Merci. Puis j'ai envie de dire en partant bravo pour ce que vous faites. Hein. Je ne sors pas de violon, là. on va voir au cours des prochaines minutes à quoi j'associe cet émerveillement que j'ai devant ce que vous faites.
C'est super. Mais écoute, merci pour ça. C'est vrai que dans cette période un peu surréaliste, bon, alors, au départ, ça l'était, cette pandémie, c'était un peu surréaliste. Aujourd'hui, on s'y habitue, ça fait plus d'un mois, c'est devenu un peu la nouvelle réalité. Mmh. C'est vrai qu'on a constaté avec Jean-Jacques French et Humans Link qu'il fallait... Nous, ça nous a inspiré un élan de solidarité. On a vu qu'il y avait un besoin de sécurité, sécurité matérielle, mais sécurité émotionnelle aussi, sécurité intellectuelle. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile de produire parce que soit le travail est arrêté ou alors certains sont en télétravail. Donc, on a décidé de produire de l'intelligence et de garder le lien avec le lien humain finalement. Et donc, grâce à la technologie, on est capable de te recevoir, toi Serge, aujourd'hui. D'ailleurs, tu nous parles d'où ce matin?
De Longueuil, en banlieue de Montréal. Alors, la rive sud de Montréal, ce que j'appelle, ça va me permettre de parler un petit peu de comment je vis la période actuelle, j'ai appelé Longueuil l'île de Longueuil, alors que Longueuil n'est pas une île du tout, mais en cette période de confinement, nous sommes en relation très étroite avec notre fille, son mari bien sûr, et nos deux petits-fils à Toulouse. Mm-hmm. C'est un des éléments que je trouve important dans le confinement, puis c'est lié justement aux solidarités dont tu parles, puis aux relations qui est important d'entretenir, puis à la résilience. Avant la période de confinement, on voyait nos petits-fils 4 ans et 1 an et demi une fois par semaine sur FaceTime. Et là, on les voit presque tous les jours, ce qui est formidable. Et l'île de Longueuil est apparue quand on a commencé à imaginer une chasse au trésor parce qu'ils s'habillaient en pirates. Alors, on lui a dit qu'il y avait des trésors enterrés dans le jardin parce qu'autrefois, les Vikings étaient venus ici et que c'était une île et qu'ils avaient laissé des trésors dans le jardin. Alors, on trouve des bois, on met des objets à l'intérieur, on enterre ça dans le jardin. Puis en FaceTime, on les déterre. Puis
c'est vrai?
Ah oui, on fait ça. Et puis, encore hier, tu vois, on avait les UR, le dollar canadien, là, qui brille au soleil parce qu'il nous demandait s'il y avait de l'or dans le coffre. Et puis, on avait mis des huards. Puis pour lui, c'était des pièces d'or. Tu sais.
Alors, on lui a demandé... C'est les chasses au trésor modernes avec... Ce sont des téléchasses au trésor.
Alors, on lui demandait ce qu'il voulait avoir dans le coffre. Tu sais, on avait vu toutes sortes de choses. Puis, il disait les pièces d'or. Mais ça reste formidable parce que c'est un peu comme dans le film « La vita est belle », là, tu sais, où il y avait cette histoire de cet homme qui est dans le camp de concentration, malheureusement, là, avec son petit garçon, puis qui crée un univers. Alors, dans des périodes comme celle-là, on arrive à utiliser notre créativité, puis on établit des connexions qu'on n'aurait pas établies autrement, parce que ce serait pas arrivé qu'on puisse le voir tous les jours, les voir tous les jours, puis mm-hmm. faire ces chasses au trésor, mais ça donne des liens, mais qui s'approfondissent. Et qui vont probablement laisser des souvenirs ou qui vont créer quelque chose qui va être durable. Déjà, c'était là, mais là, il y a des histoires qu'on pourrait se raconter encore pendant des années autour de ça, là, En les voyant grandir, c'est une dimension lumineuse de cette période qu'on traverse.
De cette période, oui. C'est intéressant parce que a priori, on se sent, on parle de distanciation sociale, donc on pourrait se sentir plus éloigné les uns que les autres, mais souvent, les témoignages que j'entends et puis ce que je vis aussi, mais en fait, je suis tout le temps connecté avec plein de gens en utilisant la technologie. Et quelque part, c'est comme si on est tous autour d'un grand feu et on se raconte quand même des histoires, on partage quand même des histoires et donc on entretient quand même ce lien social. Alors différemment, le feu de camp, il est pas réel, il est virtuel, c'est à travers des visioconférences, ouais. C'est les réseaux sociaux. Ouais. Mais les espaces de vie et les espaces sociaux sont quand même là. Enfin.
Ah oui, c'est une très belle image, le feu de camp. Et en même temps, on atteint un degré d'intimité. Ça, je trouve ça important, là, que j'avais pas encore atteint. C'est fascinant. Et il y a des choses qui se révèlent aussi, parce que c'est assez extraordinaire, ce petit bout de chou de 4 ans, beaucoup plus que celui d'un an qui est pas encore rendu là, mais nous raconte des histoires. Parce que à cause du décalage horaire, parfois on se parle à l'heure où lui va se coucher. Et c'est lui qui nous raconte des histoires. Puis ça lui permet de nous parler de lui, de ses peurs, même qu'il parle du coronavirus, il parle de l'épidémie, il parle de relations avec ses copains, il parle des relations avec son professeur. Parce qu'à l'école, c'est fascinant là-bas, ils ont mis en place des moyens de faire en sorte que les enfants puissent parler à leur professeur via les réseaux. Un par un, il y a une femme là qui, écoute, c'est extraordinaire, il y a une femme qui régulièrement prend rendez-vous avec les enfants de sa classe, une trentaine, donc c'est au moins 30 rendez-vous, et le petit bout de chou est devant l'écran avec sa mère ou son père, en contact avec le prof, et ils parlent de toutes sortes de choses qu'ils ont en commun. Des questions que l'enfant peut avoir, ça permet au prof de passer des messages, c'est fantastique ça.
Et puis même pas forcément de parler de l'école, mais de juste avoir ce lien, cette conversation, ça me fait penser, et puis ceux qui nous suivent régulièrement, ils savent que c'est quelque chose en quoi je suis convaincu, parce que je parle souvent même en entreprise, il y a une opportunité qui est énorme pour tout dirigeant ou manager de faire preuve de leadership et justement d'utiliser ce moment pour pratiquer l'écoute et de construire des relations de confiance petit à petit, justement en prenant ce moment, ce temps, et de créer de l'intimité avec les gens avec qui on travaille d'habitude. Donc,
une qualité de rapport, là, une qualité de rapport que moi je vis, même, je le vis aussi à un autre niveau, je le vis avec ma mère, qui a 91 ans, tu sais, c'est... Petit bout de chou de 4 ans, 1 an et demi, mais notre fille, bien sûr, parce qu'elle aussi nous parle de ce qu'elle vit. C'est aussi incroyable parce qu'elle travaillait à l'extérieur de la maison. Là, elle passe ses journées et nous envoie des images où elle est en train d'enseigner. Donc, elle se découvre des talents, des capacités qu'elle n'avait pas imaginé avoir. C'est aussi intéressant parce que c'est... Elle s'était peut-être vue comme enseignante, mais elle n'avait jamais mis ça en place. Là. Elle n'était jamais passée à l'action. Okay. Et là, elle le fait. On voit des images d'elle avec le petit bouquet dont elle tourne les pages et elle enseigne littéralement. Et ça, c'est absolument fascinant parce que c'est encore un révélateur de talents, de compétences, de capacités qu'elle ne savait pas posséder, avoir dans une relation intime avec ses enfants et qu'elle n'aurait pas vécu non plus parce que là, elle passe d'un rôle parental à un rôle de pédagogue. Bien sûr, les parents sont des pédagogues aussi, mais là, ça prend une autre forme. C'est vraiment fascinant toutes les opportunités.
Tu parlais du côté lumineux quelque part de cette situation. C'est tout à fait ça. Je voudrais partager un autre témoignage que j'ai reçu. Je parlais avec quelqu'un d'une grosse organisation ici au Québec et on discutait du télétravail. Et il me dit, mais Valentin, tu ne te rends pas compte, en fait, je suis plus proche de mes collègues aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. Parce qu'en plus, en visio, en télétravail, on ne peut pas parler en même temps. Donc, on est tous obligés de couper nos micros et on est obligés de s'écouter.
Wow.
Et il y a des collègues, donc c'est une entreprise justement qui est à Longueuil, mais aussi dans d'autres villes au Québec, et qui disaient, mais mes collègues des autres bureaux oubliaient de m'appeler parfois. Et là, on ne s'oublie pas. Et on s'appelle, on se voit régulièrement. Donc, c'est un autre aspect. Et puis, comme tu dis, c'est une opportunité de cultiver ça. Et sans cette situation, beaucoup n'auraient pas fait le pas, en fait. La situation nous a un peu forcé le pas, forcé la main à s'adapter. Et donc, il y a une question quelque part de se dire, bon, ben, on voit il y a des bienfaits, mais est-ce que ça va rester après ou pas? Les gouvernements commencent à parler de déconfinement, que ce soit en France ou même au Québec, au Canada. Peut-être juste avant qu'on discute de ça, parce que je sais que tu as plusieurs idées là-dessus. Pour ceux qui nous regardent et ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'est-ce que ça fait un médecin spécialiste en santé communautaire?
C'est un médecin qui s'intéresse à la prévention. C'est le mot central, non? D'ailleurs, actuellement, on en voit, quand on parle des spécialistes de santé publique, parce que c'est une crise santé publique, on voit apparaître beaucoup de médecins qui sont spécialistes en santé communautaire, en maladies infectieuses, qui ont donc consacré leur vie à essayer de prévenir l'apparition de problèmes infectieux, ou quand ils sont là, d'essayer de faire en sorte que ça s'apaise puis que ça disparaisse. On fait la même chose en santé au travail. Moi, je me suis intéressé à la santé au travail. Donc, éviter le plus possible l'apparition de problèmes liés à l'exposition à toutes sortes de contaminants, par exemple. Ça, c'est très, très de base, là. Ce sont des spécialistes en santé publique et en santé communautaire qui sont intéressés au phénomène du bruit qui rendait sourd, au plomb qui rendait malade. Alors, comment, dans l'espace de travail, faire en sorte qu'on puisse faire disparaître ces substances ou créer des manières de les utiliser qui ne seront pas, toxiques pour les êtres humains? On s'intéresse bien sûr beaucoup à l'environnement pour les mêmes raisons. Et moi, personnellement, je me suis intéressé à tout ce qui concerne, la santé psychologique, la santé psychique. Donc, essayer de voir dans l'espace de travail ce qui pouvait éventuellement rendre des personnes malades, c'est-à-dire les amener dans des détresses psychologiques, des souffrances inutiles qu'on pouvait prévenir, le burn-out,
Exact.
l'épuisement, etc. Alors, et c'est
Et
ça que
on
ça
sait
fait.
que les organisations aujourd'hui, malheureusement, contribuent grandement à beaucoup de problèmes de santé, enfin, qui ont des problèmes qui ont aussi des répercussions sur la santé. D'ailleurs, il y a un terme qui moi, m'a fait sourire. Ton site internet, c'est Tortue. Tortue Marquis. Alors, je crois que c'est un acronyme. Est-ce que tu peux nous expliquer?
Ouais, ben tortue, moi c'est un animal que j'aime beaucoup en passant parce que c'est un animal qui va à une certaine vitesse, qui est paradoxal par rapport aux vitesses auxquelles on va actuellement dans cette société. Et je crois profondément d'ailleurs que la tortue pourrait, ou à travers la lenteur avec laquelle elle avance, nous rappeler parfois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à toute vitesse, mais qu'on peut quand même avancer, qu'on peut quand même aller vers ses objectifs et les atteindre, et que si on va trop vite, on n'y arrivera pas. Réfléchir, là, ça se fait rarement à toute vitesse. Actuellement, dans une période de crise où il y a un problème qui est survenu, une petite bête qui est apparue qu'on ne connaissait pas. Allô, COVID, qui es-tu? On ne connaissait pas ce virus-là. On connaissait des virus, mais pas celui-là. Et on aimerait aller très vite, mais on ne peut pas le connaître à toute vitesse. On doit prendre le temps d'établir un contact avec lui quelque part. Je suis en train de dire, là, parler des chercheurs, bien sûr, et non pas
Pas un contact.
pas de contact qui rentre à l'intérieur de notre organisme, mais le connaître, faire les recherches qui vont nous permettre de trouver le moyen de faire en sorte qu'on puisse se protéger, protéger les gens qu'on apprécie, qu'on aime, etc., puis la société dans laquelle on vit. Donc, ça demande un certain temps pour aussi prendre des décisions qui vont être valables pour le bien commun. On peut pas faire ça à toute vitesse, tout le temps, c'est impossible. Se connaître, on peut pas faire ça à toute vitesse. Établir des relations riches avec les gens qui nous entourent, ça se fait pas à toute vitesse. Oui. Pour moi, la tortue est un symbole de cette lenteur qui est nécessaire dans le monde dans lequel on vit pour ce qui est important pour beaucoup de personnes, pour ce qui est précieux. Manger à toute vitesse, on savoure pas non plus quand c'est peut-être banal comme exemple, mais pourtant, c'est quelque chose d'important dans la vie, manger, puis savourer, ça se fait pas à toute vitesse. La tendresse, ça se vit pas à toute vitesse. Il y a plein de choses comme ça. Et en même temps, la tortue se protège. Ça aussi, c'est important parce qu'elle peut se retirer dans sa carapace. On est en train d'essayer de se protéger actuellement comme collectivité à travers la distanciation sociale, à travers ce qu'on essaie d'imaginer pour repartir la société dans laquelle on vit, la faire à un certain rythme. Alors, mais il y a un aspect protection dans ce qu'on est en train de réintroduire, continuer à se protéger tout en faisant en sorte que ça fonctionne à nouveau. Alors, la tortue aussi représente ça. Puis l'acronyme, ben, ça veut dire tortue, organisation pour réduire les tensions et l'usure dans les entreprises. C'est ce que ça veut dire. Alors voilà. Et ça vit vieux, une tortue, hein? Une tortue, ça vit au-delà de 100 ans, habituellement.
Est-ce qu'on peut dire que c'est résilient, une tortue?
Ouais, ben moi, je trouve. J'en ai vu pondre sur les plages, là, tu sais, creuser, puis déposer leurs œufs. Puis cette période où les tortues retournent, les petites tortues retournent à la mer aussi. Là, elles vont vite pour retourner dans l'eau, mais... Il y a beaucoup de prédateurs qui sont là, qui les attendent, des oiseaux, machin. Puis il y a quelque chose quand même qui fait en sorte que plusieurs d'entre elles parviennent à la mer et continuent à se développer, puis à vivre jusqu'à une centaine d'années, revenir pondre. Mais c'est pas la seule. Hein. Quand on regarde la nature, puis, ça m'amène dans une autre direction, mais c'est quelque chose qui est tellement riche.
C'est drôle qu'on parle de... Et je ne m'attendais pas à ça, mais ce matin, en réveillant, j'ai vu un article qui parlait des tortues en Thaïlande, sur l'île de Phuket, qui n'avaient pas pondu depuis 5 ans, mais parce que l'humain est moins présent, il y a moins de touristes. Du coup, les tortues ont fait plusieurs nids pour la première fois en 5 ans. Donc bon, bref, c'était petite parenthèse, mais il ne faut pas empêcher d'y penser, importante. Ouais. C'est un autre aspect lumineux, évidemment. Donc tu nous parlais de prendre le temps. Effectivement, il y a, je pense, mais certaines choses, les choses qui comptent vraiment prennent du temps. Tu parlais de la confiance, les relations. Mais tu parles aussi de la notion de se protéger. Mais je sais que dans un de tes bouquins, tu parles beaucoup de la montée de l'individualisme. Et quelque part, c'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui. Est-ce que dans une société qui évolue, une société moderne, quelque part, dans quelle direction on va? Et c'est un peu le titre de cette pause café aujourd'hui, c'est égo ou solidarité? C'est individualisme ou solidarité?
Ouais, ça c'est une question en rapport avec la crise actuelle qui me semble fondamentale, tellement importante. Parce qu'avant qu'on soit tous plongés dans cette période dont on va s'oublier longtemps, beaucoup de sociologues, de philosophes qui nous observent, c'est leur travail, c'est leur quotidien, s'entendaient pour dire, et puis je peux même en citer un dont j'aime beaucoup les travaux, qui s'appelle Charles Taylor, qui est un philosophe à McGill, connu sur la planète au complet, qui a écrit un petit bouquin qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle « Grandeur et misère de la modernité ». Okay. Et dans ce petit bouquin, Taylor dit qu'un des plus grands, c'était bien avant la crise, là, dit qu'un des plus grands et plus graves problèmes de la modernité, c'était la montée du narcissisme, de l'individualisme. Et ça, c'est très important de comprendre ce qui s'est passé. D'abord, est-ce réel? Moi, je crois que c'est réel. Et pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Et je crois que Taylor nous permet de faire une distinction entre deux mots. Je trouve ça très, très intéressant, ce qu'il nous apporte. Il distingue individuation, s'individuer, de individualisation. Donc, deux mots qui ne veulent pas du tout dire la même chose. S'individuer, c'est devenir ce que nous sommes comme individus, c'est-à-dire développer pleinement son potentiel, ses capacités, ses ressources, ses talents, ses forces. Et Taylor nous dit que ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et c'est merveilleux. Et c'est associé à ce qu'il a appelé une grande marche identitaire qui se serait amorcée fin 17e, début du 18e, qui a donné naissance à des grands mouvements collectifs, des grands mouvements sociaux, tout ce qui concerne la place des femmes dans la société, entre autres. On sait que ça a beaucoup changé, ça doit encore d'ailleurs évoluer, mais ça a beaucoup changé depuis le 18e siècle, évidemment. Au 20e siècle, les femmes ont acquis le droit de vote, alors qu'elles ne l'avaient pas au début du 20e siècle. Donc, la place qu'elles ont prise dans les entreprises. La même chose au niveau des races, c'est ce que Taylor tient comme discours, l'égalité des races, l'absence de différence dans la valeur des êtres humains, là, parce que ça aussi, ça a beaucoup évolué au cours des derniers siècles. L'orientation sexuelle, en fait, plein de paramètres, je ne sais pas si le mot est juste, qu'on peut regarder en rapport avec l'individuation, devenir ce que nous sommes. Hein, là. Bon. Et Taylor nous dit ça, ça va se faire, ça se fait beaucoup, la possibilité de devenir qui nous sommes, dans le dialogue, dans le rapport à l'autre, pas uniquement tout seul dans son coin. Un talent, une capacité se développe, bien sûr, si je travaille à le développer ou à la développer, mais ça peut aussi se développer quand quelqu'un à côté de moi m'aide à la développer. Un professeur que j'ai rencontré à l'école, qui va comme arroser une plante, là, la métaphore est peut-être mal habile, mais pour permettre à ce talent de se développer parce qu'il exprime, qu'il l'a vu, puis il m'apporte des moyens de développer ça. Professeur de musique qui aide quelqu'un à apprendre le piano, bon, ben, il y a des milliers d'exemples de cette nature-là. Mais je vais aller encore un peu plus loin dans la notion du dialogue dont parle Taylor, parce que ce que Taylor nous dit, c'est que à chaque fois qu'on entre dans un dialogue, ça peut nous permettre de voir le monde autrement. Ça peut nous permettre de pouvoir dire, parce que quelqu'un prononce une phrase, ça peut nous permettre de dire « Ah, merci, j'avais pas vu ça comme ça. » Eh bien, on peut associer ça, bien sûr, à tout ce qu'on vient de raconter. La place qu'occupent maintenant les femmes, bon, etc. « Ah, j'avais pas vu ça comme ça. » Maintenant, je le vois de façon plus
claire. C'est le fameux 1 plus 1 égale 3, quelque part. Exact, tout à fait. On peut faire naître de nouvelles choses.
Absolument. Puis moi, je vois ça, je donne toujours un exemple de ça en rapport avec notre fille qui m'a beaucoup appris pendant notre vie commune, puis qui m'apprend encore beaucoup maintenant qu'elle est mariée, puis qu'elle a des enfants, tout ça. Mais quand elle avait 14 ans, un samedi matin, j'étais en train de lire le journal, et puis j'étais passionné par un article que je lisais, bon, blabla. Et puis, elle arrive à côté de moi, puis elle me dit, j'aurais une question à te poser. Et là, spontanément, dans ma tête, comme j'étais passionné, en une fraction de seconde, ça a fait, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle ne voit pas que je suis occupé, blablabla. Bla. Puis là, il y a eu un réflexe que j'essaie de développer encore aujourd'hui, qui a été, Serge, présence attentive. Ça, c'est deux mots très importants. Présence attentive. Curieusement, tu en parlais tout à l'heure. Tu sais, quand tu parlais des entrepreneurs qui ont des contacts avec certains, avec les membres du personnel, etc., ils sont dans une présence attentive. La même chose avec mes petits-fils, notre fille, ma mère actuellement. Présence attentive. Alors, c'est apparu au moment où elle m'a dit, Serge, j'aurais quelque chose à te demander. Et là, j'ai fait présence attentive. Je me suis retourné vers elle. J'ai dit, le journal, il va être encore là tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, elle m'a dit, un de mes copains s'est suicidé hier à l'école. Alors, elle était complètement bouleversée. Elle ne savait plus où loger devant une question importante pour elle. Il y avait la confusion. Elle avait besoin d'un dialogue pour pouvoir arriver à dire, ah, j'avais pas vu ça comme ça. Tu sais, peut-être pas trouver un sens, mais au moins avoir une position par rapport à une situation hyper complexe.
Prendre un peu de hauteur, peut-être.
De hauteur, de recul. Elle essayait de trouver un sens, c'était difficile. Elle avait besoin d'un dialogue pour le faire. Et ça lui permettait de devenir encore davantage l'individu. L'individuation, là, c'est aussi ça. Devenir davantage qui nous sommes à travers la clarification ou des réponses parfois imparfaites, mais à des questions qu'on se pose. Et donc, l'individuation se fait dans ces espaces de dialogue, dans ces rencontres avec les autres, etc. Et Taylor nous dit qu'à notre époque, on a confondu ça avec l'individualisation, qui était le moi, je vais être l'être exceptionnel de la place, c'est moi qui va quelque part avoir la promotion X, Y, Z, et je vais tasser tous les autres, et blablabla. Dans des périodes comme celles qu'on traverse, le côté lumineux de l'être humain s'exprime, on en a vu quelques exemples, il y a aussi le côté plus sombre de l'être humain qui apparaît. Parce que c'est une période où, rapidement, la survie est une question qui est posée, même inconsciemment, pour beaucoup d'êtres humains. Est-ce que je vais l'attraper, la bibitte? Est-ce que quelqu'un qui m'est cher va attraper la bibitte? Puis bon, on voit apparaître au bas de l'écran le nombre de morts chaque jour dans tous les pays, bon, etc. Bien sûr, le cerveau, là, rapidement, en une fraction de seconde, il fait danger. Sonia Lupien, j'aime beaucoup la nommer parce que j'admire son travail, qui est directrice en études de recherche en santé et sécurité, en stress. Oui. Une recherche sur le stress à l'hôpital Louis H. Lafontaine, une merveilleuse expression pour décrire le cerveau. Elle dit que c'est un détecteur de menaces.
Oui, elle est fabuleuse. Je l'ai regardée. J'ai assisté à des conférences de Sonia Lupien. Ah. Elle parle de ce fameux mammouth qui va chasser quelque part. De revenir à, elle parle beaucoup du côté primaire.
Très primitif de l'être humain. Puis du cerveau qui est un détecteur de menaces qui a permis à l'espèce humaine de survivre. Alors, quand on est dans une situation comme celle qu'on vit, bien sûr, le cerveau réagit à « Oh, il faut que je pose les gestes nécessaires pour assurer ma survie. » Et là, on peut voir apparaître ou le côté lumineux ou le côté sombre. Le côté sombre étant de s'emparer de tout le papier de toilette qu'il y a sur les tablettes ou de toutes les pâtes, les tomates, puis de mettre ça dans son panier, puis de courir en sortant du supermarché pour... on met ça dans son sous-sol ou je sais pas où, versus le côté lumineux ou la conscience que la survie est associée aussi à l'interconnexion, aux solidarités, puis dire, ben, au lieu de prendre 10 boîtes de pâte de tomate, je vais en prendre 2 ou puis je vais en laisser pour les gens qui m'entourent, parce que, et de faire confiance à ce groupe auquel on appartient, sachant qu'il y a des gens qui s'occupent de faire en sorte qu'il y aura aussi encore des boîtes de tomates dans quelques jours. Alors, et ça, c'est important parce que on vient d'entrer dans l'individualisation là, dans le côté sombre, qui n'est pas du tout l'individuation qui est liée à la relation, aux relations humaines, à l'interconnexion, qui permet le développement de chaque personne. Et ce que j'espère, c'est qu'à travers la crise qu'on vit actuellement, apparaissent des mouvements de solidarité merveilleux. Il y a le côté lumineux s'exprime d'une façon à nous émerveiller. Moi, ça m'émerveille. Chaque jour, j'en ai même des larmes, parfois, devant ce que j'observe. Et j'espère qu'on va, par rapport à ce qui existait avant, qui était cette montée de l'individualisme, du narcissisme, cette confusion qui nous amenait dans l'individuation, le moi, le moi, le moi. Qu'on retienne de cette période de crise que ça, c'est un dérapage, que la vérité, entre guillemets, se trouve autant pour s'individuer, pour devenir ce que nous sommes, que pour la survie des organisations, de la société dans laquelle on vit. C'est dans les solidarités que ça va se faire. C'est dans l'interconnexion que ça va se faire. Et c'est un, pour moi, ça pourrait être un passage pour réajuster le mouvement qui s'en allait vers l'individuation, puis le ramener vers ce qui permet vraiment ce qu'on cherche. Parce que dans l'individualisation, faut faire attention.
Ouais,
dans l'individualisation, il y avait aussi la quête de devenir soi-même, mais elle ne peut pas se faire tout seul dans son coin. Elle va se faire dans l'interaction avec les autres.
Donc, en tant que société, on a besoin des autres pour grandir. Donc, quand on parle de l'individuation et de l'individualisation, quelque part, c'est deux manières de survivre et de grandir, mais il y en a une, l'individualisation, où c'est le moi, je qui, quelque part, est perdu d'avance.
Ouais, on se trompe.
Et l'individuation qui est le développement de soi avec les autres.
À travers la
relation, ouais, c'est important, à travers la relation qu'on, ouais, a, ouais, qu'on peut avoir avec les autres.
Et un exemple que je donne, écoute, quand j'étais enfant, il y avait dans le journal, il y avait une bande dessinée qui était Tarzan. Et puis Tarzan, qui est un héros qui a fait traverser les décennies, on a fait un paquet de films. Mais avant que des êtres humains découvrent Tarzan, Tarzan n'avait été en contact qu'avec des singes. Alors, qui était-il devenu? Tout le potentiel de l'être humain à l'intérieur de lui ne s'était pas encore développé, ne s'était pas exprimé. C'est une belle métaphore. Il agissait comme un singe. Il avait un langage de singe, etc., etc. Ce n'est qu'à partir de ce moment où il était en contact avec des êtres humains qu'il a pu, que son potentiel a pu se développer, a pu s'exprimer, qu'il a pu devenir l'être humain qu'il pouvait devenir. Donc, si on s'en va dans l'individualisation, en espérant que ça va permettre au potentiel de se développer, on se trompe. C'est en allant dans l'individuation, dans les relations avec les autres, que ça va vraiment se développer. Et on sort de la survie, là. On sort dans le développement du potentiel humain. Alors ça, c'est fondamental par rapport aux leçons qu'on pourrait tirer de cette crise-là.
D'ailleurs, dites-nous en commentaire, que si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, dites-nous en commentaire si vous avez des questions pour Serge Marquis ce matin. Si vous êtes d'accord par rapport, ou qu'est-ce que vous pensez tout simplement de cette notion d'individuation versus l'individualisation, et s'il y a des témoignages ou des questions par rapport à ça, dites-le nous en commentaire. Nous, on suit ça de près, on fait remonter toutes vos questions à Serge pour y répondre aujourd'hui. D'ailleurs, Serge, tu parles de grandir à travers les autres. Il me semble que Darwin parle de ça, parle de l'évolution de cette manière.
Darwin, c'est fascinant parce qu'on a associé souvent Darwin à... Bon, celui qui va survivre, ça va être le plus fort, celui qui va mieux s'adapter, bon, etc. Mais il y a tout un mouvement néo-darwinien là, qui nous fait voir que Darwin nous a aussi dit que si on avait survécu, on n'est pas dans l'individuation, là, on est dans la survie. Que si on avait survécu, c'était que, comme espèce, on s'était occupé de nos plus vulnérables. Parce que le fait de s'occuper des plus vulnérables, ça avait créé un sentiment d'appartenance à une communauté. Et que c'est qu'en tant que communauté qu'on était en mesure de faire face aux menaces naturelles, les crises de toutes sortes, les volcans, les épidémies, on en vit une actuellement, il y en a eu avant, les sauterelles, les sécheresses, les inondations, tout ce que vous voudrez. C'est en tant que communauté qu'on était capable de traverser ça. Parce que tout seul, c'était pas possible. On sait ici au Québec que quand dans les villages, quand il y avait une grange qui passait au feu, il y avait un incendie, le village venait en aide à la personne dont le bâtiment avait brûlé pour le reconstruire. Tout seul, ça aurait été compliqué. Il serait peut-être arrivé, mais ça aurait pris beaucoup de temps. Et avec nos hivers, etc., là, les gens profitaient de la période printemps, été, automne pour reconstruire le bâtiment. Mais c'est cette communauté qui permettait à cette personne de retrouver des éléments associés même à sa survie. À la survie de son temps, lui permettre de retrouver un travail, lui permettre de... Bon, etc.
Je trouve ça super important parce que quand on commence à parler de déconfinement et cette période de confinement pousse à la réflexion, à l'introspection, on a le temps de prendre le temps de se poser des questions. Et quand on nous parle de déconfinement, c'est un peu ces questions de OK, mais comment on reprend? Est-ce qu'on reprend comme avant? Et je trouve ça intéressant de en pensant en macro, en ayant un raisonnement un peu méta, de prendre conscience que Darwin ne parle pas de la loi du plus fort. Il parle en fait de la capacité de l'humain à s'adapter. C'est pas les plus forts qui gagnent, c'est ceux qui s'adaptent le mieux qui survivent. Et une composante de cette résilience, c'est notre capacité à créer des liens avec nos semblables. Et c'est à travers ça que chaque individu peut grandir. Enfin, moi, ça me fascine. Je trouve ça
Et c'est la réalité. C'est cette espèce de sentiment d'appartenance à la communauté, et évidemment l'entretien de ce lien, parce que ça c'est important aussi, c'est ce lien a besoin d'être entretenu.
On parlait de la tortue qui prend le temps. On tombe pas amoureux comme ça. C'est plein de petites actions. La confiance se construit petites actions par petites actions.
Oui, tout à fait. Et la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, et tout ça
Bien
se fait
sûr.
dans la lenteur, ça se fait dans la découverte de petits détails, de petits gestes, etc. Et ça, on oublie ça. Et ça aussi, c'est un autre phénomène important par rapport à la crise actuelle. Il y a eu, évidemment, beaucoup de gens en parlent, à gauche et à droite. Il y a un temps d'arrêt. Il y a un ralentissement qu'on n'avait pas prévu, qu'on ne peut pas éviter. On a tous et toutes ralenti. Et ce ralentissement, c'est énorme par rapport au rythme dans lequel on fonctionnait avant le ralentissement. Mais c'est aussi dans ce ralentissement que des connexions ont été rétablies entre des personnes. C'est aussi dans ce ralentissement, ce que tu mentionnais tout à l'heure, que des introspections se sont faites, que des découvertes se sont faites, que des situations difficiles, conflictuelles, qui ont peut-être pu même être réglées, que des conflits nouveaux qui sont apparus, qu'on connaissait pas, dont on ne connaissait pas la présence, mais qui étaient latents ou qui couvaient, et ça, c'est apparu. Mais ça aussi, ça peut être traité dans des périodes comme ça. Bon, parfois, pour se rendre compte qu'il y a des situations qui n'étaient peut-être pas celles qui correspondaient à ce qu'on voulait vraiment vivre, et donc des situations qui vont nous obliger à prendre des décisions, à effectuer des changements majeurs dans nos vies. Il y a des couples qui vont se séparer probablement après cette période-là. Et c'était peut-être une bonne chose que ça arrive, hein? C'est pas facile, mais c'était peut-être une bonne chose plutôt que de se faire croire un tas d'affaires et de se raconter un peu d'histoire.
Je pense que cette période de confinement est un peu une loupe
Ouais.
sur beaucoup de choses et exacerbe le bon, mais aussi le moins bon dans chacun de nous, puis dans notre société en général. Je vais juste remonter le commentaire de Yolande qui nous dit « Stoppez le lièvre qui s'agite en nous pour devenir tortue ».
Oui, pourquoi pas? Parce que si on redevient cette tortue qui, j'allais dire profite, mais saisit, tiens, ce mot est plus juste, saisit cette opportunité pour même mieux se regarder, se connaître, s'observer, on va peut-être même découvrir que le travail qu'on faisait ne correspond pas nécessairement à ce qu'on voulait faire, mais qu'on allait tellement vite qu'on ne questionnait plus ça, qu'on était strictement en train de se dire ben, c'est comme ça, c'est la vie, bon, blablabla, puis qu'on ne prenait pas le temps d'arrêt nécessaire pour se poser la véritable question. Est-ce vraiment la vie? Est-ce vraiment la vie que je veux? Est-ce que c'est vraiment le type de relation que je souhaite vivre présentement? C'est une opportunité en or pour regarder ça. Mais peut-être faire des choix difficiles, peut-être se dire ben non, finalement, cet emploi-là, pardon, ne correspond pas vraiment à ce que je souhaitais faire. Les relations que j'avais dans mon espace de travail ne correspondent pas nécessairement à ce que je voulais vivre non plus. Est-ce que des ajustements possibles? Et s'il n'y a pas d'ajustement possible, est-ce que je peux pas aller vers autre chose? C'est vraiment une opportunité extraordinaire pour ce ralentissement, pour se poser ces questions fondamentales, précieuses, qui peuvent nous permettre peut-être pas d'avoir des réponses tout de suite, mais d'aller en chercher aussi dans des dialogues avec d'autres. Ça aussi, c'est possible.
100%. Effectivement, donc quelque part, en période de crise, Serge, il nous parle d'une montée d'individualisme, d'une part, avec, comme Sonia Lupien en parle, le stress, la peur. Et comment notre cerveau, enfin, les réactions que notre cerveau peut avoir, les gens qui se ruent sur le papier toilette, bon, toute cette partie-là du moi, moi contre tout le monde. Mais il y a aussi, c'est ce qu'on vient de dire là en dernier, il y a aussi en temps de crise des prises de conscience qui se font. J'entends que même si on n'a pas des réponses, et il y a des dilemmes qui se posent, mais il y a surtout des questions et des réalisations. Donc, quelque
Prise de
part, c'est
conscience.
des prises de conscience, oui. Donc, quelque part, C'est les deux composantes dans une crise. Il y a une réaction qui. Est-ce qu'on peut dire que c'est une réaction qui est égoïste et l'autre est... ne l'est pas?
Je ne sais pas si je la qualifierais d'égoïste, je la qualifierais de très primitive. Et ce n'est pas péjoratif ce que je dis là, parce que pas du tout. Le cerveau a heureusement encore des réactions dans certaines situations primitives qui permettent la survie. Si je suis en forêt et que j'entends un rugissement, bon, ben, je vais avoir une réaction très primitive. Hein, puis, et c'est intéressant ça aussi parce que moi, je vais souvent en forêt et puis dans des endroits où il y a des ours. Et je me suis dit, bon, il faut fort que je fasse attention. Si jamais j'arrive face à face avec un ours, qu'est-ce que je fais? Je me suis mis à lire sur quoi faire quand on arrivait devant un ours.
Ouais.
Et la première chose qu'on nous conseille, c'est fascinant, c'est de rester calme. C'est pas facile de rester calme en face d'un ours. Mais c'est super important parce que si on s'énerve, ça peut faire peur à l'ours. Et ça peut entraîner un comportement d'attaque de la part de l'ours parce qu'il a peur. Alors là, on est dans une situation où c'est pas un ours, c'est un virus. Et une des choses qu'on peut faire, c'est rester calme. Et c'est pas facile parce qu'une réaction très primitive qui est liée à la fuite devant l'ours, on a envie de se mettre à courir à toute vitesse, puis ça pourrait se faire rattraper parce qu'on peut paniquer. Mais dans la situation actuelle, on peut aussi paniquer, ce qui nous amène à mettre plein de papier de toilette dans la poussette ou toutes les pâtes de tomates parce qu'on panique au lieu de rester calme. Permettre à l'esprit de retrouver une certaine tranquillité et une certaine lucidité pour poser des gestes adéquats et non pas des gestes influencés par la panique. Alors ça, c'est super important. Donc, c'est pas égoïste, c'est primitif.
Primitif.
Et ça peut amener une panique et ça demande un temps d'arrêt pour demeurer calme, avoir un esprit tranquille, qui peut être qualifié à ce moment-là comme un comportement qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas égoïste, mais c'est plutôt de l'appeler un comportement conscient. Donc, un comportement très primitif versus un comportement conscient où il y a eu un
Mais
temps d'arrêt.
il y a une dynamique également. Parce que nous sommes des animaux avec une composante sociale, c'est que la manière dont notre cerveau est câblé quelque part, si on voit des gens paniquer, on va aussi paniquer
Ouais.
par mécanisme de survie, avant même de comprendre le pourquoi et le pourquoi de la panique. On panique d'abord et puis on regarde après, c'est le cerveau reptilien qui prend le dessus à ce niveau-là.
Y a un effet
Et il
d'entraînement aussi.
y a un effet d'entraînement.
Ouais,
Et
parce qu'on
c'est
voit
bon,
l'ours.
on reprend à chaque fois l'exemple du papier toilette, mais c'est typiquement ça. Il n'y a aucune logique dans ça, mais c'est un mouvement qui est entraîné par la panique de certaines personnes et il y a une reproduction d'un comportement qui est pas logique. Et encore, c'est pas grave, c'est comme tu dis, il n'y a pas de jugement, c'est juste quelque chose qui est primitif ou alors qui est en conscience de. Il y avait une émission radio ce matin avec Boris Cyrulnik et il disait simplement, on oubliait qu'on appartenait au monde vivant, on partage la planète avec les animaux. Et il parle de à quel point est-ce que cette pandémie va laisser un traumatisme? Et son point de vue, c'est il n'y aura pas nécessairement de traumatisme, mais il y aura un problème à résoudre. Et en fait, ma question avec toi, Serge, c'est de se dire, OK, mais du coup, est-ce qu'on va rebasculer vers comment on fonctionnait avant ou pas?
Je ne le sais pas. Je n'ai vraiment aucune idée. J'ai plutôt des souhaits par rapport à ça que j'ai exprimé, mais que je continue d'exprimer tant que je le peux. Quels sont les apprentissages qu'on va tirer, les leçons qu'on va tirer de cette situation-là? Et on a une opportunité, mais j'aime beaucoup encore ce mot-là, mais en or, de réajuster le cap, là, tu sais, le gouvernail, le mouvement du gouvernail, là, tu sais, le petit mouvement du gouvernail, là, de le réajuster là, un petit peu pour que le navire reprenne une direction beaucoup plus en harmonie avec ce que nous sommes réellement, des êtres de relation, des êtres interconnectés, des êtres de solidarité, des êtres, et j'ai envie de dire des êtres avec tous ceux qui nous entourent, toute cette nature qui nous entoure. Tu sais, je lisais, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est réel, mais qu'il y a des scientifiques qui disent qu'il y a un grand trou au niveau de la couche d'ozone qui est en train de se refermer présentement. Tu sais, il y a plein de choses comme ça. Cette interconnexion, là, est-ce qu'on peut prendre le gouvernail puis revenir à cette conscience profonde de cette interconnexion de ce que nous sommes réellement, réellement, versus ce dérapage dans lequel on était allé, là, l'individualisation, le moi, etc., là, l'ego, l'ego qui s'inflationne. Est-ce qu'on va pouvoir bien ancrer ça? Et ça, je le sais pas. On a l'opportunité de le faire. Parce qu'on, justement, on échange là-dessus, on en parle, on voit apparaître des mouvements qui nous émerveillent, etc. Donc, on a vraiment une opportunité extraordinaire. Allons-nous l'intégrer pleinement au quotidien pour que ça redevienne quelque chose de l'ordre du réflexe presque dans nos façons d'interagir, dans les décisions qu'on prendra, dans les gestes qu'on va poser. Un autre exemple de ça, c'est, tu sais, bon, ce qui se passe dans les supermarchés, c'est important parce que la survie est associée à ce que je vais bouffer, tu sais, les pâtes de tomates, là, j'en prends parce que j'ai peur de manquer de nourriture. Donc, là, c'est la peur de mourir de faim. Bon, tu sais, c'est très, 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 très primitif, ça, cette tendance. Mais c'est pas de l'ordre de la conscience qui fait, ben non, il y a encore des personnes autour qui s'en occupent et qui travaillent très fort pour qu'il y ait encore des pâtes de tomates. Je me répète, là, je sais bien, mais c'est fondamental par rapport à ce qu'on va vivre par la suite. Ça me fait réaliser que j'ai pas besoin de 25 boîte de pâtes de tomates pour vivre mon quotidien présentement. Et ça s'applique à plein de choses. Je constate, comme individu, maintenant, qu'à plein de choses dont je pensais avoir absolument besoin, dont j'ai pas vraiment besoin pour pouvoir avoir un quotidien qui me nourrit, et c'est sans faire de jeu de mots, là, dans les relations que je vis avec les personnes qui m'entourent, etc.
Pour avoir une qualité de vie qui te satisfait?
Qui me remplit, tu sais, j'ai jamais eu, bon, je prends des marches, j'ai l'opportunité de pouvoir prendre des marches au quotidien avec ma conjointe, en respectant bien sûr tout ce qu'on nous demande de respecter, mais écoute, je m'arrête comme je m'arrêtais peut-être pas assez souvent devant l'apparition du printemps, là, tu sais, ça a l'air un peu cliché, peut-être un peu, mais non, mais c'est réel, là, tu sais. Hier, on en parlait, elle et moi, on disait, ah, regarde, les bourgeons éclatent, les premières tiges sortent du sol. Tu sais. Il y a quelque chose dans ça qui fait que j'ai peut-être pas besoin de plein d'éléments, d'objets pour pouvoir, c'est aussi un peu un cliché, mais c'est important de se le rappeler, pour savourer l'existence pleinement. Et ça, est-ce que cette leçon-là, je vais la retenir? Ou si je vais à nouveau avoir cette tendance à croire que la réussite de ma vie, que mon bien-être est nécessairement associé à une consommation effrénée d'un paquet de choses. Est-ce que je vais tirer cette leçon-là? Parce que c'est une leçon aussi qui est importante pour la planète. Pour les...
100%.
Alors, et donc, on en parle, on voit déjà des impacts. Est-ce qu'on va retenir ça? Jusqu'à quel point je vais me poser même des questions avant chaque voyage que je vais faire? Ça va jusque-là. C'est pas banal, ça. Est-ce que je vais en faire autant? Il y en a que je vais faire, c'est sûr. Tu sais, je vais aller voir notre fille puis sa famille à Toulouse. C'est clair. Mais il y a plein de choses que je faisais devant lesquelles je vais au moins m'arrêter pour me poser la question, tu sais, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que, par rapport à l'importance que ça a pour la planète, là, maintenant, là, je vais pouvoir faire des choix éclairés, là.
J'entends, il y a une citation que j'ai vue ce matin qui dit « On aura le choix entre vivre mieux ou subir une dictature, qu'elle soit politique, religieuse, financière ou liée à l'hyperconsommation. »
Eh oui, Et oui, et tu vois, on va être devant ces choix-là. Et ces choix-là se font quand on s'arrête, quand on devient comme la tortue, quand on va au rythme qui permet cette réflexion, ces dialogues, ces échanges et ces choix. J'allais les éclairer parce qu'on a pris le temps de mettre un peu de lumière sur les dimensions qui viennent toutes dans la balance par rapport au choix que j'ai à faire. Il n'y a pas un choix qui se fait dans l'immédiateté, l'instantanéité à laquelle on est habitué et fait uniquement pour aller vers une forme d'hédonisme. Ça, c'est important parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer des groupes, des jeunes. J'ai eu cette chance-là, là, des centaines de jeunes qui entraient dans le système de santé, des jeunes entre 15 et 18 ans dont le travail allait être préposé, aide-infirmier, ambulancier, ambulancière, infirmière, bon, etc. Alors, j'ai eu la chance de les rencontrer, puis on parlait du moment présent ensemble, parce que le moment présent est un concept beaucoup utilisé dans cette société depuis un grand bout de temps. Soyons dans le moment présent, vivons le moment présent. Et avec les jeunes, on en venait au constat que ce moment présent, ce concept-là avait été galvaudé, qu'on l'avait beaucoup associé à une dimension hédoniste. C'est-à-dire, être dans le moment présent, c'est être dans le plaisir. Ce qui est complètement faux, parce que, bon, on peut être dans le moment présent et être dans le plaisir, bien sûr. Mais
c'est pas exclusif à ça, oui.
Non, parce qu'avec les jeunes, ce qu'on se disait, c'est qu'être dans le moment présent, c'est aussi écouter le prof en classe. Vraiment l'écouter, là. Mm-hmm. C'est être dans le moment présent. Alors, ça, c'est important parce que pour beaucoup de personnes, la crise actuelle nous ramène à la notion de moment présent aussi. Bien sûr, on se pose des questions par rapport à l'avenir, mais on peut, pour calmer le mental, calmer le hamster qui tourne toujours dans notre tête, là, on peut ramener notre attention dans le moment présent sur les relations qu'on vit. Quand je parle à ma mère de 91 ans, j'essaie d'avoir toute mon attention dans le moment présent et dans la conversation que j'ai avec elle par rapport à ses inquiétudes, par rapport à mm-hmm. aux questions qu'elle se pose nécessairement à son âge dans cette situation. Et ça, là, cette notion-là, associée à l'hédonisme et aux décisions qui sont prises à toute vitesse sous prétexte qu'on va être dans le moment présent, si on va faire tel voyage ou si on s'achète tel objet, ou etc., ce sont des questions fondamentales qu'on devra se poser par rapport à ce que c'est réellement être dans le moment présent. Et se demander si on a besoin de faire tout ça, de posséder tout ça.
Oui, mais quelque part, les éléments de réponse sont déjà là, parce que comme on ne peut pas voyager, on ne peut pas faire plein de choses comme on a l'habitude de faire. Bon, quelque part, je pense que c'est aussi pourquoi bon, chacun vit le confinement différemment, mais je pense que c'est aussi pour ça que il y a beaucoup de gens qui soit s'ennuient et n'en peuvent plus d'être confinés, enfin souffrent beaucoup en fait de cette période de confinement. Peut-être que c'est parce qu'il y a, ben, il y a une prise de conscience qui est peut-être nécessaire. Je vais relever un commentaire de Jen ici qui nous suit sur YouTube et qui dit « Si le processus d'isolement dure plus d'un an, peut-être qu'il y aura prise de conscience, mais 2-3 mois, c'est tellement peu dans une vie. »
C'est vrai.
Qu'est-ce que tu en penses, Serge?
Moi, je crois que... Puis là, je vais citer un ami, quelqu'un que je n'ai pas eu très longtemps, mais qui a changé des choses dans ma vie par des échanges qu'on a pu avoir, qui s'appelle Thierry Pochamp, qui enseigne au HEC à Montréal, et qui s'était beaucoup intéressé à la question du sens, bon, etc. Et qui disait que il y a quelques éléments qui peuvent faire changer le système. Et qu'un des éléments, c'est... Il y en a au moins 3 ou 4, là, mais un des éléments, c'est une crise. Et que les crises peuvent faire changer des systèmes complètement, parce qu'elles peuvent permettre de se réajuster, de mettre en place des mécanismes pour prévenir l'apparition de la crise à nouveau, par exemple, ou mm-hmm. d'avoir, juste ça, là, c'est un élément qui va faire bouger un système parce que si on met en place des mécanismes, pas toujours à notre avantage, parce qu'il y a certains mécanismes qu'on met en place qui vont nous obliger justement à laisser un peu de l'individualisation pour aller vers l'individuation. Prendre un avion aujourd'hui, ce n'est plus comme prendre un avion il y a quelques années. Il y a des choses qui sont plus difficiles, bon, etc. Mais pour le bien commun, ben, on le fait, on l'accepte. Alors donc, une crise est une opportunité de faire bouger un système. Et peut-être, pas pour sa durée, mais parce que ça aurait été une crise importante, qu'elle aurait permis à certaines personnes de faire vraiment des prises de conscience qui vont être donc durables, qui vont amener des changements, qui vont s'inscrire dans la durée au cours de leur existence, de leur vie. Thierry Beauchamp parlait aussi de leaders charismatiques qui peuvent faire changer les choses. Puis bon, ben, y a des leaders charismatiques qui vont vers la lumière, puis il y en a d'autres qui vont vers les zones sombres. On n'en nommera pas.
Mais alors, c'est intéressant parce que encore une fois, dans l'histoire, quand on regarde, il y a des périodes fin Moyen-Âge où après des grandes crises, bon ben les propriétaires des terres vont se mettre à prendre meilleur soin en fait des gens qui travaillent pour eux. Donc ça c'est le système qui s'améliore progressivement. Puis on a vu aussi avec fin de guerre mondiale, la première guerre mondiale, on a en Allemagne un leader qui prend le pouvoir avec cette promesse d'amener de la sécurité et de rétablir, et qui cette fois-ci va plus dans le côté sombre, comme tu dis. Donc il y a les deux. Et on a Isabelle ici sur Facebook qui nous dit: confiné, à chaque fois qu'on lit un livre, on voyage autour du monde, et où voyage intérieur. D'ailleurs, toi Serge, tu as écrit plusieurs bouquins. Je pense notamment à Pensouillard le hamster, puisqu'on parle de calmer son lièvre et peut-être de prendre l'exemple sur la tortue en période de confinement, de donner le temps au temps, de prendre le temps. Tu as aussi le bouquin Egoman.
Qui est un roman qui est en France, ça s'appelle Egoman s'appelle Le jour où je me suis aimé pour de vrai. Étrangement, c'est un roman qui est différent parce que quand il a traversé en France, il a perdu du poids.
Ah oui?
Oui, bon, on a fait une version allégée. J'ai travaillé beaucoup avec les éditeurs français. On a coupé même 200 pages. Alors, on a comme deux versions. Il y a des gens qui préfèrent la version québécoise, puis il y a des gens qui préfèrent la version française. Enfin, peu importe. Ça, c'est un roman sur l'ego aussi. C'est l'histoire d'une femme qui est confronté à que son fils, pas confronté, mais que son fils de 9 ans invite à un dialogue en lui demandant: maman, c'est quoi l'ego? Et elle est beaucoup dans ça, être la meilleure partout, tout le temps. Puis là, la rencontre avec son fils l'oblige à changer, à se transformer, à aller vers les questions par rapport à ce que c'est vraiment une vie de qualité, etc. Alors voilà. Et puis, un petit bouquin qui va paraître bientôt au Québec, qui s'appelle Papa. C'est un livre jeunesse. J'ai beaucoup d'émotions quand je parle de ce livre-là, parce que ça a été écrit à la suite du décès de mon père. Et puis, c'est un livre qui a été illustré par quelqu'un dont j'admire énormément le travail, qui s'appelle Gilles Rapaport, qui a fait des dessins, mais d'une beauté absolument magnifique. Alors, il est paru en France le 12 mars, et en pleine crise. Et il va paraître au Québec en mai, semble-t-il. Alors, voilà.
Super, merci pour ça, Serge. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des bouquins que tu lis, toi, personnellement, en ce moment, que tu voudrais partager avec nous?
J'en ai un que je l'ai pris parce que tu m'avais parlé de cette question-là. Puis il y en a un que, écoute, c'est un livre que je lis, il est tout effet. Regarde comme il n'est pas gros, hein, il est tout petit. C'est vraiment, écoute, c'est 120 pages, 150 pages, mais c'est tout petit. Et ça s'appelle « Dernier journal » d'un philosophe qui s'appelle Krishnamurti. Dans plusieurs des livres, j'ai lu plusieurs de ses bouquins et c'est pas facile d'accès, mais celui-là, c'est un de ses derniers. Et lui est beaucoup plus facile à suivre et à comprendre. Alors, c'est le dernier journal de Krishnamurti. Et je le relis présentement. C'est justement toute la question de l'individu versus l'appartenance à plus grand que soi, là, à une communauté, l'interaction, etc., etc.
Est-ce que tu es quelqu'un qui apprécie le cinéma? Est-ce que tu as des films que tu, est-ce qu'il y a un film que tu, pas nécessairement que tu as regardé récemment, mais un film qui t'a marqué, que tu aurais envie de partager aujourd'hui?
C'est drôle que tu dises ça, parce que ça aussi, tu m'avais laissé entendre qu'on parlerait peut-être un peu de ça. Et puis, écoute, il y a un film que j'ai revu récemment, mais qui est un vieux, vieux film, qui, pour moi, est un film qui m'a marqué. Et je l'ai revu récemment. Écoute, pour moi, il n'a pas vieilli. Et ça s'appelle Zorba le Grec. C'est fascinant, ce film. C'est sur la vitalité d'un être humain, là, puis il arrive des catastrophes. Et la résilience, là, il en est un exemple extraordinaire de la résilience. Écoute, c'est un film de, je sais pas, les années 60, j'ai aucune espèce.
Ouais, c'est 64.
64.
64, ouais.
Ah, écoute, j'ai
Il est bien coté sur IMDb et sur Rotten Tomatoes, pour ceux qui,
connaissent. Écoute, avec Anthony Quinn, un acteur fabuleux, Bates, Alan Bates, Irène Papas, grande actrice grecque. Et c'est basé sur un roman de Nikos Kazantzakis. Et c'est vraiment un film sur la résilience, l'énergie là, d'un individu qui veut mordre dans la vie à pleines dents. Là. Et l'amitié, c'est un film sur l'amitié aussi. C'est enfin, moi, je l'ai revu, je l'ai acheté, comme tu peux voir, il est dans ma... Et je vais le revoir à nouveau. Je me fatigue pas de voir ce film-là. Il m'énergie. Il y a une catastrophe incroyable, puis il se met à danser. C'est fascinant.
c'est super. En tout cas, je remercie tous ceux qui nous ont suivis en live, que ce soit sur Facebook et sur YouTube. Et puis, surtout toi, Serge, un grand merci pour cette discussion rafraîchissante, lumineuse. C'est égo, solidarité, est-ce qu'on va rebasculer? Je pense que il y a pas mal de pistes, il y a plusieurs éléments qui indiquent qu'il y a moyen qu'on s'en sorte plutôt bien.
Ouais. Moi aussi, je crois qu'il y a des choses, des leçons qui vont être retenues. Je crois ça. Je le crois. J'aime le croire. Et je te remercie aussi énormément. Ça a été une belle un bel échange avec toi, pour moi, ta présence. Merci beaucoup.
Ça me touche, Serge. Merci beaucoup.
Et à ton père aussi, qui était quelque part...
Oui, je rappelle Jacques Poix pour tous les lives, en fait, qui est en coulisses, mais qui est là, qui nous écoute, qui nous suit et qui prend soin de la communauté dans le chat, qui est là, qui est présente. Il y a Yolande qui dit « Restez optimiste ».
Oui, merci.
Yes, Yolande, tu peux compter sur nous. Donc, rappelez-vous, en période de crise, il y a toujours des opportunités. Celle-ci en particulier nous offre l'immense opportunité de pouvoir prendre le temps et de se poser les questions. Donc, profitez-en. C'est pas tous les jours qu'il y a pandémie, on pourrait presque dire.
c'est la première fois que j'entends ça. C'est assez...
Mais oui, mais je trouve ça drôle.
C'est vrai.
Profitez-en. Il y a pandémie. C'est pas tous les jours que ça arrive. Et rappelez-vous, en période de crise, on peut partir vers l'individualisme. Et si c'est le cas, ne jugez pas. C'est juste une réaction qui est simplement plus primaire. C'est une intention de survivre. Mais la meilleure manière de survivre en tant qu'espèce, c'est de se retrouver, de garder le lien et de faire évoluer nos consciences. D'ailleurs, rappelez-vous, on revient tous les jours de la semaine à 11h sur cette pause café avec Humans Link. Soyez humains, soyez extraordinaires. Merci à tous.
Merci.